agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Nous voici chez nous, fardés et parés, nus sous nos tuniques d'amorgos bien épilées. Nous nous promenons, les hommes s'enflamment, ils veulent jouir de nous. Repoussons alors leurs embrassements, abstenons-nous, et ils feront la paix au plus vite, j'en suis bien sûr.
Oh, c'est bien ainsi, je crois que Ménélas, quand il vit toute nue, les pommes d'Hélène jeta son épée.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Clémenceau adorait la Grèce antique et ses écrivains, sauf un seul, Aristophane, dont il disait un jour à un confident: celui-là, non. Il dépare la collection. Il n'a rien compris à rien. Il a pris le grand pour le petit pour le grand. Il a jeté son fiel et jeté sa bave, au hasard. Tout cassé, tout sali. Ce sont ces gens-là qui pourrissent un pays. Fin de citation. Voilà une bien rude philippique et qui donne le goût d'aller y regarder de plus près, quitte à démentir la sévérité du tigre. Et en s'interrogeant sur les formes du rire que pratique, que provoque le théâtre d'Aristophane et qu'il laisse courir derrière lui. Telle sera notre contribution au week-end que France Culture consacre au beau sujet du rire à travers les âges. Dans notre temps, on constate aisément la grande variété des ressorts de l'humour et de l'ironie d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Alors que doit-ce être dans la longue durée de l'histoire ? Le rire d'Aristophane a paru si efficace à ses contemporains qu'on a conservé un bon nombre de ses pièces alors que celles de ses rivaux ont disparu. Voilà qui donne le goût d'aller y regarder de plus près pour tâcher de déceler par rapport à aujourd'hui ruptures et continuités. C'est Sylvia Milanesi, professeure d'histoire grecque à l'université de Paris-Est, qui connaît son Aristophane sur le bout du doigt, Sylvia Milanesi, que j'ai prié de nous le faire mieux connaître et comprendre. Et pour commencer, un propos de Marcel Arlan qui remonte à 1949.
Le premier caractère de son œuvre est qu'il s'agit d'une œuvre franchement comique. Et l'on conviendra que ce caractère n'est point commun, encore qu'il semble impliqué par l'essence du genre. L'œuvre d'Aristophane amuse, elle fait rire. Il arrive ensuite, bien sûr, que vous vous reprochiez un peu d'avoir ri. Au XVIIIe siècle, Rollin et la Harpe traitaient Aristophane de battleur. Mais au siècle précédent, Racine lui empruntait les traits les plus plaisants de ses plaideurs. Si le comique d'Aristophane n'est pas toujours des plus fins, il joue sur plus d'un mode, de la drôlerie piquante à l'énorme farce. Ce peut être un simple comique de mots, et ces mots vont fort loin dans l'obscénité et la scatologie. Au regard d'Aristophane, notre Rabelais fait figure de petite pensionnaire. Mais enfin, ce sont des mots pleins de santé et qui jouent franc jeu. Ils ne se trouveraient pas tout à fait à leur place dans une émission éducative, mais on peut les préférer aux sous-entendus grivois et même aux rengaines sentimentales dont le public, qu'il le veuille ou non, se trouve comblé. Au demeurant, resterait à prouver que les mœurs de l'ancienne Athènes n'atteignaient pas à l'extrême pureté des nôtres.
C'était donc l'extrait d'une causerie de Marcel Arlan dans L'heure de la culture française, titre d'époque, le 17 février 1949. Marcel Arlan, dont je rappelle qu'il a été un romancier reconnu, directeur de la NRF et homme de lettres influent en son temps. Sylvia Milanesi, bonjour.
Bonjour.
J'espère ne pas vous avoir fait trop de peine en citant ce mot cruel, ce mot sévère de Clémenceau, à vous qui, dans votre préface au Lysistrata d'Aristophane, avez préféré cette citation de Platon: « Cherchant un temple impérissable, les grâces trouvèrent l'âme d'Aristophane. Vous l'aimez beaucoup, votre Aristophane?
Ah oui, oui, c'est un homme remarquable. Et depuis sa jeunesse, il était plein de vie, plein d'enthousiasme. Il était probablement un acteur, puis il est devenu un poète, un didascalos, c'est-à-dire celui qui guide aussi son cœur pour présenter son œuvre.
Mais alors, si je pose Clémenceau à Platon et à beaucoup d'autres, ce qui frappe, c'est l'évolution très en dents de scie de la réputation d'Aristophane, parfois considéré comme un personnage presque méprisable, une sorte de chansonnier dépassé, et souvent, en revanche, comme un créateur hors de pair. Il est frappant que son image ait beaucoup évolué depuis, par exemple, quelques décennies, que l'intérêt scientifique porté à son œuvre est beaucoup cru.
Quand j'ai commencé à étudier Aristophane à la fin des années 70, la bibliographie, bien entendu, existait. Il y avait de belles collections, de beaux commentaires, mais on peinait un peu. Et aujourd'hui, on est envahi, et heureusement, où les chercheurs ont dépassé la peur qu'ils avaient de la comédie et cette idée que la tragédie, n'est-ce pas, parce que Aristote l'aimait, donc que la comédie dit, elle n'avait pas droit de citer. Aujourd'hui, elle a droit de citer, elle a pignon sur rue et tout va bien.
Et vous le dites avec beaucoup de bonheur, visiblement.
Ah oui, 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 tout à fait.
Des mots pleins de santé, disait déjà Marcel Arlan. Le côté à la fois vivement érotique et même scatologique a parfois peut-être éloigné certains savants guindés ou drapés de l'antique Sorbonne.
Pendant une longue période, en France et ailleurs, on considérait qu'Aristophane était un réactionnaire. Et donc, puisqu'on considérait qu'il était un partisan de l'oligarchie, sans comprendre que pour la comédie, n'est-ce pas, on pourrait utiliser les dictons espagnols « Hay gobierno, soy contra ».
Traduction.
S'il y a un gouvernement, je suis contre. Et donc, puisque c'est l'actualité, la comédie ancienne, c'est cette actualité dont il faut parler, discuter, et on en parle de façon très crue, en mélangeant sexe et politique, nourriture et politique. C'est ce qui fait les côtés que vous évoquiez tout à l'heure, que Marcel Arlan pense que Aristophane n'est pas un auteur que l'on doit utiliser pour renseigner quelque chose. Et d'ailleurs, les jeunes filles étaient priées de sortir de la salle quand on faisait des traductions d'Aristophane.
Ça vous est arrivé quand vous étiez
enfant? Non, pas moi, mais il m'est arrivé d'étudier des comédies d'Aristophane où les plaisanteries les plus grivoises étaient traduites en latin. Dans les éditions espagnoles, parfois, c'était la traduction des plaisanteries était en latin. Donc, ça veut dire pour dire attention, là, il y a quelque chose de dangereux, donc il ne faut pas prononcer. Il y avait une censure de l'actualité ou de la modernité qui s'imposait au texte d'Aristophane, alors qu'à Athènes, c'était normal d'utiliser les mots tels qu'ils devaient être utilisés.
Vous évoquez l'espagnol, vous pourriez évoquer le portugais, je crois que vous êtes d'origine brésilienne.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et chez nous, on disait qu'une fille ne pourrait jamais étudier Aristophane parce qu'il ne faut pas utiliser des gros mots.
C'est ça qui vous a donné envie de vous en occuper?
Oui, oui, oui. Surtout parce qu'on considérait que je ne serais jamais capable de traduire Aristophane. Et quand j'ai produit la traduction des grenouilles en portugais dans mon université, on m'a dit « Non, non, il y a trop de gros mots, c'est pas possible. »
C'était l'époque aussi où, dans certains cas, on mettait un petit peu de colle entre deux pages qui devait être dérobée à la curiosité des jeunes filles et des jeunes garçons, d'ailleurs,
ouais,
ce qui ne faisait que l'exciter davantage.
Ouais. Alors, oui, tout à fait. Alors, la curiosité vous démange. Voilà.
J'espère que cette curiosité va permettre que nos auditeurs nous conduisent jusqu'au bout. Et tout à l'heure, bien sûr, nous parlerons d'un éventuel féminisme, vous me direz si c'est un mot adapté, d'Aristophane avec Lysistrata, l'Assemblée des femmes, etc. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est qu'il y a quelque chose d'éphémère par nature dans ces pièces qui font allusion à des événements politiques de l'Athènes du 5e siècle et du début du 4e, qu'on a évidemment oublié. C'est comme si certains textes de chansonniers de grand talent étaient dans 2000 ans pris en compte par nos successeurs. Cela marcherait peut-être pas très bien. Ce côté éphémère contraste avec le fait qu'on a conservé des pièces. On en a gardé 11 sur une quarantaine. Comment expliquer que celle-ci ait été transmise jusqu'aujourd'hui et que d'autres de ses rivaux en particulier ne l'ont pas été, Sylvia Milanesi?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la langue d'Aristophane est une langue remarquable. Elle était considérée avec celle de Thucydide comme les fleurons de l'atticisme. Et donc, cela a permis, dans un premier temps, la conservation. Mais puis, il y avait aussi les facteurs Socrate, puisque énormément de manuscrits contenant les nuées.
Les nuées, c'est la fameuse pièce consacrée justement à Socrate.
Exactement.
Très sévère.
Très sévère. Et ça, c'est très drôle, puisqu'on a accusé, d'une certaine façon, Aristophane d'être un des responsables de la mort de Socrate. Puisque
c'était 30 ans avant. C'était
voilà,
30 ans.
Oui. Mais il y a des gens qui ont cru cela pendant longtemps. Hein. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a permis aussi de conserver sa comédie. Et également, bien entendu, toute sa verve politique et la parodie à l'égard de la tragédie qui est quelque chose de remarquable chez Aristophane, qui donne pour la première fois sur la scène comique des reprises, des morceaux des tragédies d'Euripide qui venaient à peine d'être présentées. Donc, il divulguait. Et je pense que ça a contribué. Donc, langue, thème et, bien entendu, peut-être également les succès. Et tout cela malgré certains anciens qui considéraient qu'il était une sorte de courtisane par rapport à Ménandre, qui était la bonne femme au foyer, très rangée. Je parle du style, de l'intrigue, du génie.
Voilà. Ménandre, c'est un autre auteur comique qui a fleuri, comme on dit, un siècle après Aristophane et qui a longtemps été préféré par beaucoup d'esprits pudiques ou qu'on dirait aujourd'hui un peu superficiels à Aristophane, dont vous nous dites que la force écrase l'œuvre de Ménandre.
Je suis une partisane d'Aristophane. Ménandre était un grand poète. Et malheureusement, il y a peu de ces pièces qui sont parvenues jusqu'à nous. Aristophane, je les préfère parce que j'ai un certain goût pour la réflexion politique, la réflexion poétique, puisque chez Aristophane, c'est le moment de l'invention pure, en quelque sorte. C'est le moment où on commence à réfléchir sur ce qui est le spectacle, ce qui est la mimesis, c'est-à-dire l'imitation. Et donc, on commence à réfléchir sur les effets d'une production sur les spectateurs. C'est pour cette raison que je l'aime. Voilà, et que je l'admire.
Ce rire dont nous parlons ce matin, le rire d'Aristophane, est fondé en partie sur cette dérision appliquée aux hommes politiques et aux écrivains de son temps, dans l'immédiateté d'une réaction.
Oui, tout à fait, puisque la comédie ancienne à laquelle appartenait Aristophane, évidemment, cette définition ou désignation a été inventée beaucoup de temps plus tard, mais c'est une comédie qui a comme matière première ou qui prend pour matière première les présents et les transforme. Donc, la comédie est un miroir du présent. Elle n'est pas le présent, c'est une œuvre de fiction. Mais on a évidemment tout ce qui est important et la politique, les démagogues, la guerre, tout cela était le quotidien des Athéniens et transformé pour faire rire. Avec, ça, c'est l'objet du rire.
Avec une invention langagière
est extraordinaire. Invention des mots. Par exemple, dans l'Assemblée des femmes, vous avez l'utilisation d'un grand nombre de mots pour former un seul. Vous avez des noms parlants, que ce soit ceux des gens qui étaient connus ou autres, les quiproquos, les langages à double sens. Donc, c'est un univers poétique à découvrir, vraiment.
On comprend qu'il faille beaucoup de notes en bas de page dans les éditions scientifiques de Guillaume Budet. D'Aristophane lui-même, on sait peu de choses. On ne le connaît guère que par son œuvre. Vous pouvez nous dire le peu qu'on sait?
Si on devait se fier uniquement à son œuvre, on saurait que, par exemple, dans cette partie de la comédie que l'on appelle la parabase, où c'était les chœurs qui prenaient la parole et s'adressaient au public, donc, les coryphées, les chefs du chœur, tiennent des propos particuliers, à savoir, Aristophane nous montre qu'au début de sa carrière, il a été obligé de confier à des gens expérimentés les soins de mettre en scène ses œuvres. Et la première fois où il se présente devant le public en demandant un chœur aux responsables du concours à Athènes, c'était en 424. Donc il avait déjà obtenu des prix, mais il n'avait pas présenté ses pièces puisqu'il n'avait pas l'âge légal de les faire. Alors il dit, évidemment, j'étais une sorte de ventriloque et d'autres ont porté mon enfant, en quelque sorte.
Il faut rappeler que Aristophane a vécu, croit-on, c'est un peu incertain pour les deux dates, mais enfin en gros a vécu de 445 à 385 avant Jésus-Christ, et ses premières pièces, il les offre à peine à l'âge de 20 ans.
Ah oui, même les premières pièces, il les présente en 427.
Oui, c'est
un vrai prodige. Et ça, c'était des pièces comme Les Banquetteurs ou ainsi les Babyloniens qui précèdent les Acharniens, n'est-ce pas? Dans ces pièces, il évoque déjà les problèmes de la sophistique, la guerre. Il était un garçon précoce. Oui, tout à fait.
Mais on sait peu de choses de lui. Il a eu quelques des fils, mais on ne sait pas grand-chose.
Oui, on sait qu'il a eu, ben ça, des sources anciennes, tardives, disent qu'il aurait eu 3 enfants. Les noms, on les connaît, Philippe, Araros.
Araros qui a été lui-même auteur de pièces.
Un poète. Ses enfants sont devenus soit des poètes, soit des didascalos, ou des metteurs en scène qui prenaient en charge les pièces d'autres personnes. Et donc c'est lui, on ne sait pas, son père était probablement simplement un Athénien qui aurait exercé une charge politique. Et donc on ne sait pas si son père avait un rôle théâtral et peut-être pas, mais lui, il s'est formé. Il est un homme de théâtre qui vit les théâtres et ses enfants, pareil.
Avec de la musique, vous allez nous expliquer, Sylvia Milanesi, quel est le rituel de ces représentations. Auparavant, puisqu'il s'agit de musique, je vous propose cette chanson du Général qui est interprétée en 1962 par Marc et André sur une musique de Georges Auric. C'est une chanson qui a été composée pour la mise en scène des oiseaux d'Aristophane, par Charles Dullin, le grand Charles Dullin, au théâtre de l'Atelier en 1928. Et ce sera la première occasion d'entendre un peu sa voix.
Ça devient de plus en plus louche, paix par le droit, paix des nations. On n'a plus que paix à la bouche, monsieur de la provocation. La paix, c'est bon pour les mazettes, les mal foutus, quoi, les penseurs, les mères, les femmes et les sœurs, bougres d'andouilles que vous êtes. L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire.
À droite, alignement, autant.
L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire.
À droite, alignement, autant.
Suivez-moi bien, mais à la guerre. On est nourri, logé, chauffé. On est nourri, logé, chauffé. Cherchez, vous ne trouverez guère de métier plus avantagé, de métier plus avantagé. Il a ses risques, on en crève, mais pour les Grecs bien balancés, je ne connais pas d'autres rêves. En avant ou pas qu'à danser.
L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire.
À droite, alignement, autant.
L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire.
À droite, alignement,
autant.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Visiblement, Aristophane n'était pas très militariste, n'est-ce pas, Sylvia Milanesi?
Non, mais cette chanson du général pouvait bien s'appliquer à la fin des Acarniens, où Lamachos apparaît comme les stratèges. Donc, pour nous, c'est la traduction. Aujourd'hui, vous traduisez par général, mais les anciens utilisent le terme stratège. Donc, c'est les vatinguerres par excellence. Évidemment, il y a aussi dans ces textes un peu tout ce que pense Aristophane sur certaines causes de la guerre, à savoir, c'est bon, non pas pour les morales, mais c'est un prétexte pour vivre. Voilà.
Est-ce qu'on frôle presque le comique troupier à certains moments?
Peut-être, mais je pense qu'il y a davantage, il y a cette volonté de contraster l'homme de guerre, les chefs de guerre, chez Aristophane, à cette immense envie de paix qu'avaient les Athéniens. Mais Aristophane serait capable d'écrire une chanson, puisqu'il y avait les chansons et des danses dans les théâtres, et les chœurs étaient là pour ça. Et je pense qu'il pourrait faire pire.
Rappelez-nous, si vous le voulez bien, quel était le rituel du théâtre? Comment étaient organisées les représentations? C'était selon un ordre assez fixe?
Normalement, la cité organisait des concours en l'honneur des Dionysos. Et cela avait lieu tous les ans, ou plutôt deux fois par an, dans la ville même d'Athènes. Puis, il y avait aussi des représentations dans les dèmes ruraux, donc dans la région d'Athènes, c'est-à-dire l'Attique.
Les dèmes, c'est-à-dire les districts.
Les districts, oui. Les poètes, voulant concourir, devaient demander aux responsables de ces fêtes la possibilité d'avoir un chœur. Les responsables du concours, on les appelle les archontes, ces responsables, ils devaient indiquer un homme riche pour prendre en charge, n'est-ce pas, les frais d'entraînement du chœur. Cet homme, il offrait un lieu pour les répétitions, nourriture si nécessaire, et puis il payait tout ce qui est lié à l'attirail, c'est-à-dire costume, masque et même l'animal qui devait être sacrifié par la suite, puisque les régents devaient offrir un banquet. Et donc, il y avait, selon les concours, 3 concurrents ou 5. Et la comédie, elle était insérée dans un programme beaucoup plus large qui comprenait tragédie, dithyrambe, c'est-à-dire un chœur chanté et dansé, et évidemment la comédie. Et donc c'est dans ces cadres, au théâtre, quels que soient les théâtres, puisque avant la grande construction, n'est-ce pas, il se tenait ailleurs ou dans les théâtres qui n'étaient pas encore en pierre. Et donc, les pièces d'Aristophane étaient présentées, comme celles d'Euripide, d'Eschyle, de Sophocle. On accordait un prix aux meilleurs poètes. Et donc, parfois, Aristophane a obtenu les premiers prix, comme pour les Acarniens, les cavaliers.
Première pièce, les Acarniens, première pièce.
Et également, il a obtenu les prix aussi pour les grenouilles les premiers prix. Tandis que pour d'autres pièces qui pour nous sont magnifiques, il est arrivé second ou troisième, cela dépend.
Et comment se succédaient les moments de la présentation? C'était assez fixé.
Il y avait un prologue, c'est la présentation d'un problème grave dans la cité. Et donc, les héros comiques est là, parfois seuls, comme Dicéopolis dans les Acarniens, en train de réfléchir comment faut-il faire pour obtenir la paix.
Et on rit déjà
des moments-là. On rit déjà parce qu'il est là en train de se gratter, en train de péter, en train de dire les tristesses qu'il ressent. Et ensuite, il dit qu'il va faire tout ce qu'il peut pour que la paix soit votée à l'Assemblée. Il s'émet un porte-à-faux parce que finalement, il va décider de faire la paix tout seul et donc envoyer des ambassadeurs à Sparte, etc.
D'où dérision, un phénomène de dérision contre lui qui s'organise dans le public.
Voilà. Et ça, c'est les prologues, la présentation. Ensuite, évidemment, vous avez une entrée du chœur, parfois, dans des comédies.
Combien de gens dans le chœur, à peu près?
Peut-être 24, puisque dans certaines comédies, comme dans la Lysistrata, vous avez la séparation des deux chœurs. Un chœur des vieillards, un chœur des femmes. Donc, et il y a les coryphées, donc 24, 25 personnes. Ensuite, vous avez, et une fois que le chœur est rentré au théâtre, et donc c'est la danse, la musique. Nous avons des épisodes comiques grâce auxquels l'action avance jusqu'au milieu de la pièce, qui est un moment extraordinaire dans la comédie ancienne, qui met bien en évidence cette liberté d'expression, puisque normalement, les chœurs s'adressent au public.
Le chef du chœur, le chef
oui,
du chœur.
Voilà. Et donc, on a en quelque sorte un commentaire sur l'actualité. Parfois, ces commentaires semblent un décalage par rapport à l'intrigue elle-même, mais il y a toujours quelque chose de fondamental. Les points que les poètes veulent faire, c'est là où on a toute sa verve. Et au milieu de tout cela, les chœurs prennent la parole et chantent des insultes. Enfin, après la parabase, vous avez encore des épisodes comiques où, évidemment, dans la première partie de la pièce, les héros ont une idée de génie qu'ils veulent mettre en action. Et dans la seconde partie, à savoir après la parabase, l'idée de génie est mise en œuvre, donc elle existe déjà. Et donc on se réjouit ou on se fâche, peu importe, jusqu'à la fin, à l'exode, à la sortie du chœur, avec souvent fête, procession triomphale, etc.
La seconde partie est donc plus débridée, on peut le dire.
Parfois,
à la fois
parfois,
du point de vue
parfois
du langage,
oui, et... mais si on prend la Lysistrata, c'est débridé de partout. Hein. Donc,
on va y venir, je vous le promets. Mais auparavant, pour rester un instant dans la question de la guerre, qui a été pour Aristophane l'ennemi principal et tous ceux qui l'ont incarné, les généraux qui donnaient l'impression d'être bellicistes dans leur propre intérêt. Écoutez cet extrait de La Paix, une autre de ses pièces célèbres, qui est interprétée par Jean Villard et Michel Bouquet, hommage aussi à ces deux grands comédiens, au TNP, le 19 décembre 1961.
Tu es venu, pourquoi ?
T'apporter ces cadeaux.
Oh, le mignon, mignon. Oh, l'adorable.
Vorace. Allez, appelle Zeus.
Parti. Déménager. Hier.
Où ça?
Au fond des galaxies, à l'infini des cieux.
Et toi, tu es resté seul ici, pourquoi?
Comme garde-meuble. Garde-cadeau, garde-icône. Portier, gardien de nuit, gardien de jour.
Les dieux ont déménagé, mais pourquoi?
De colère contre les hommes. À leur place, ils ont installé Polémos. Polémos, la bataille. Polémos, belliciste. Polémos, la guerre. Avec le droit de faire de vous ce qu'il voudra. Ils ont assez de vous voir batailler, assez de vos supplications, assez de vos conférences internationales au sommet ou ailleurs.
Mais pourquoi ?
Parce que vous préférez la guerre.
Vous préférez la guerre. Préférence pour la guerre, tout ce que détestait Aristophane.
Oui, pas seulement lui, ses concitoyens, mais ils étaient bien obligés de le faire, étant donné qu'ils avaient quelque chose de très important à défendre, à savoir non seulement leur territoire, mais l'empire qu'ils exerçaient sur la mer Égée. Périclès, dans ses discours, disait « Cet empire est comme une tyrannie » et Cléon, par la suite, dirait « Cet empire est une tyrannie ». Et donc...
Il faut rappeler, alors, donc, que toute la carrière dramaturgique d'Aristophane a été contemporaine à des soubresauts terribles après le moment où avait fleuri la civilisation athénienne, la guerre du Péloponnèse contre Sparte en particulier, la dernière partie du 5e siècle.
Donc, Aristophane a vécu tout au long de la guerre du Péloponnèse, qui débute en 431 et prend fin en 404. Et cela va alimenter son esprit, va alimenter son génie. Tout d'abord, quand il débute au théâtre, Périclès, qui était le grand stratège, qui avait conseillé les Athéniens à se lancer dans les combats pour préserver leurs acquis, il était mort. Par la suite, vint Cléon, qui devient la cible des prédilections d'Aristophane. Donc, tout d'abord, Aristophane va nous donner son idée des causes de la guerre. Et en imitant Homère et Hérodote, il va dire que la guerre, c'est une affaire des catins. Et donc, Périclès y entre parce qu'il vivait avec Aspasie et qu'Aspasie avait des courtisanes. Une d'entre elles a été enlevée en représailles d'une autre enlevée aux Mégariens. Et donc, c'est la guerre. Et alors, Périclès qui crie, qui braille et qui va faire passer un décret empêchant les Mégariens, c'est-à-dire des voisins, de vendre au marché à Athènes.
C'est déjà Hélène et la guerre de Troie.
Ben justement, c'est parfaitement ça. Mais comment mettre en évidence cela? Puis, dans la paix, nous avons une autre cause de la guerre. Et ça, c'est évidemment, il y a toujours l'idée que la femme, n'est-ce pas, la femme fatale est la cause, mais aussi un problème économique. Et là, c'est très intéressant parce qu'Aristophane présente la guerre comme un prétexte pour détourner l'attention des citoyens d'une situation embarrassante. Donc Périclès aurait trempé dans une affaire à laquelle étaient mêlés les grands sculpteurs Phidias, du moins c'est l'interprétation comique. Hein? Donc c'est ça, c'est Aristophane.
On se demande ce qu'Aristophane aurait dit aujourd'hui de Poutine à cet égard, dont la popularité augmente à toute vitesse à cause de sa politique étrangère.
Voilà, donc probablement il saurait trouver les mots très justes pour l'épingler comme il le faisait avec, évidemment, Périclès, et comme il le fera avec les va-t-en-guerre par excellence,
Cléon. Rappelez qui était Cléon.
Cléon était un tanneur, fils d'un homme riche. Il détenait des ateliers des tanneries à Athènes. Et il est devenu, après la mort de Périclès, un des leaders, un des guides du peuple. Guide du peuple, ce n'est pas une magistrature, ce n'est pas un rôle politique, n'est-ce pas ? C'est après, vers 425, qu'il devient un stratège et il va combattre les Spartiates dans la zone de Pylos, dans les Péloponnèses, Messénie plus particulièrement, et il obtient une victoire et personne ne pensait qu'il allait obtenir cette victoire. Et donc, les Athéniens deviennent en quelque sorte sa chose. Et c'est pour cela qu'Aristophane présente dans les cavaliers présentés en 424, les peuples, Demos, Dépnix, c'est-à-dire les peuples de l'Assemblée, comme un vieillard rabougri qui a dans sa maison un intendant étranger, en quelque sorte, c'est le Paphlagonien, qui n'est autre que les portraits crachés de Cléon, les démagogues qui les mènent par les bouts du nez.
Donc cette liberté du théâtre permettait de dire beaucoup de choses, même en un temps où le duce, le guide Cléon, avait le goût évidemment d'opprimer la liberté à Athènes au nom des obligations de la guerre.
Je ne pense pas qu'il, Cléon, voulait priver les Athéniens de la liberté ou les opprimer. Il les a aveuglés pour différentes raisons. Et une d'entre elles, c'est que ceux qui n'étaient pas sur les champs de bataille, ils étaient à Athènes. Aristophane considère, comme Cléon avait augmenté l'indemnité de ceux qui étaient juges, n'est-ce pas ? Et comme les procès se multipliaient, donc il les avait à sa disposition, ou du moins 6000 hommes. Et donc là, c'est toute cette démagogie également, nourrir les peuples par les tribunaux, que l'on voit également dans les guêpes.
Mais si les Athéniens étaient aveuglés, Sylvia Milanesi, ce sont précisément leurs yeux que Aristophane prétend dessiller.
Oui, tout à fait. Mais cependant, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que la politique ? Est-ce que la politique qui est la nôtre à Athènes a un sens ? Est-ce que nous pouvons changer ? Et donc, dans les cavaliers, ce que l'on retrouve, c'est la politique du pire, n'est-ce pas ? À savoir, on veut remplacer Cléon, mais qui on va le mettre ? Un homme politique qui dit lui-même, je sais à peine lire, à peine écrire. Quelqu'un lui dit, mais c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire la politique. Il faut être ignorant et ne voir rien. Et là, on est un politicien merveilleux.
Là, c'est le rire par l'absurde.
Oui, tout à fait. Et évidemment, à la fin de cette pièce, nous, on pourrait penser qu'elle aurait un impact considérable et que Cléon, puisqu'il est, mais vraiment complètement attaqué de tous les côtés, vraiment comme s'il était au combat, il est criblé des traits. Mais rien. Donc, ce qui se passe, c'est que le lendemain de cette pièce, il est élu un nouveau stratège.
C'est donc la limite de l'efficacité du rire sur la scène. Est-ce que vous seriez tenté de faire une comparaison avec ce que la télévision nous propose aujourd'hui avec l'effort de mise en dérision des hommes politiques, je pense au bébé de Chaud naguère, au Guignol aujourd'hui. Est-ce que aller jusqu'à rapprocher ces deux types de représentations vous paraît incongru ?
Non, toutefois, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait rire avec la politique parce qu'on a vraiment l'intention de la changer ou pour rendre les hommes politiques connus, acceptés, et pour que le public soit habitué avec eux, change leurs idées à leurs propos.
Vous voulez dire que certaines apparences de critique peuvent aboutir finalement à quelque chose. Vous pensez peut-être à Jacques Chirac avec son putain 5 ans, vous vous rappelez ?
Oui.
On dit que cette image l'a plutôt servi.
C'est un peu à ça que je pense, oui, oui.
Alors vous évoquez le rôle des femmes, il faut en venir à une des pièces les plus célèbres d'Aristophane, je veux dire Lysistrata, c'est l'histoire des femmes qui décident de dérober leur corps aux hommes pour les obliger à la paix. Puis également à une pièce beaucoup plus tardive du début du IVe siècle qui s'appelle l'Assemblée des femmes, mais qui devrait peut-être plutôt s'appeler les femmes à l'Assemblée. Vous avez fait une présentation remarquable de Lysistrata dans les classiques en poche aux belles lettres et vous terminez cette introduction en disant ceci. Sylvia Milanesi, le rire est la force créatrice qui réveille la conscience de soi et de l'autre. S'il ne peut pas changer le monde, il incite du moins à la réflexion et à l'action. En ce sens, ajoutez-vous, Lysistrata est un magnifique appel à la vie, à l'action, à la vraie pratique du politique. Alors, actualité de Lysistrata ou non ?
Ah oui, Lysistrata, elle est une des pièces les plus actuelles, elle est une des pièces les plus faciles à mettre en scène parce qu'on n'a pas besoin d'échanger les noms des personnages. Lysistrata signifie celle qui délie les troupes, n'est-ce pas ? Celle qui, en promouvant la paix, ramène le bonheur, l'harmonie dans la cité et pas seulement dans la cité parce que là, nous sommes en train de parler encore de la guerre du Péloponnèse et donc de l'union avec toutes les autres cités grecques.
Un extrait de Lysistrata avec Lys Delamar, sociétaire de la Comédie-Française, diffusé sur la RTF le 22 avril 1954, il y a tout juste 60 ans.
Oh, pourtant, il le faut, la paix avant tout. Ah, oh, très cher, toi seule es vraiment femme.
Supposez, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'on s'abstienne absolument de ce que tu dis. La paix se fera-t-elle davantage pour cela ?
Certainement, par les déesses !
Nous voici chez nous,
fardés et parés, nus sous nos tuniques d'amorgos, bien épilés. Nous nous promenons, les hommes s'enflamment, ils veulent jouir de nous. Repoussons alors leurs embrassements, abstenons-nous, et ils feront la paix au plus vite, j'en suis bien sûr.
Oh, c'est bien ainsi, je crois que Ménélas, quand il vit toute nue, les pommes d'Hélène jeta son épée.
Et si les hommes nous laissent là?
Alors, comme dit Férécrate, on écorche un chien écorché.
Bah, biole que tous ces simulacres. Et s'ils nous traînent de force dans la chambre à coucher?
Cramponne-toi à la porte!
Et s'ils nous battent?
Cède de mauvaise grâce, car là, plus de plaisir s'il y a violence. On a d'ailleurs moyen de les tourmenter. Toi donc tranquille, ils y renonceront, et bien vite. Il n'y a de volupté pour l'homme que si la femme la partage.
Si c'est là ton avis, c'est aussi le nôtre.
Pour nos maris, nous les déciderons bien, nous, à faire en tout lieu une paix juste et sans dol. Mais ce flot bruyant d'Athéniens, qui ne décidera jamais à ne plus faire de folie?
Ne t'inquiète pas, c'est notre affaire. Nous y amènerons les nôtres.
Jamais, tant qu'ils auront l'idée aux galères et un trésor sans fond sous la garde de la déesse.
On y a pourvu. Nous nous emparerons de l'acropole aujourd'hui même. C'est le lot assigné aux plus vieilles d'entre nous. Pendant que nous concertons ici, elles, sous prétexte de sacrifice, occuperont la citadelle.
Que tout arrive bien. Ce que tu dis est au mieux.
Lysistrata a été traduit, une pièce traduite... Sylvain Milanesi, de façon assez variable, suivant les moments. On a parfois le sentiment qu'il y a un peu de gaz, c'est le cas de le dire, autour, G-A-Z-E, autour de certaines expressions crues. Et puis on est revenu aujourd'hui, où tout est plus permis, à des formules autres. Quand Lysistrata dit « quand nos maris seront enflammés, brûleraient nos étreintes » dans les éditions de 1950. Et ça devient, dans l'édition que vous avez préfacée, « quand nos amis en érection brûleraient de nous étreindre ». Si nous, alors, au lieu de les accueillir, nous nous refusions, ils feraient bientôt la paix, j'en suis sûr.
Et encore, parfois, on peut aller même plus loin.
Allons bon, tout est permis, vous pouvez y aller.
Non, pas, je n'ai pas ça. Mais donc, évidemment, il y a des Lysistrata très prudes, il y a des Lysistrata plus crus. Parfois, quand vous apprenez cela, on va vous dire... Oh, madame, vous enseignez la Lysistrata. Mon mari a dit que ce n'est pas quelque chose à lire. J'ai répondu, mais lisez donc au lit. Donc c'est très bien, Lysistrata, c'est très bien. Alors, plaisanterie mise à part, cette comédie, elle est extraordinaire parce que, comme toute comédie dite à femme chez Aristophane, elle met en scène les besoins de réfléchir sur ce qui est la guerre et réfléchir sur ce qui dirige la cité. Alors que dans certaines comédies, les personnages veulent, avant de s'occuper du bien-être de la cité tout entière, veulent leur propre confort. Lysistrata, elle... non seulement pense à donner à Athènes quelque chose, la paix, mais également que toutes les cités des Grèces se réunissent pour former un véritable cœur et vivre de façon harmonieuse. Il est vrai, cependant, que la grève du sexe, c'est quelque chose de remarquable et qui a été après, par la suite, même dans mon pays, au moment...
Au Brésil,
quand il y avait la quête des pierres précieuses, n'est-ce pas, qu'on appelle les bandeiras, les femmes, pour faire leur mari revenir à la maison, ont fait la grève du sexe et apparemment ça a marché. Alors,
c'est Aristophane d'ailleurs qui dit que le poète qui n'éduque pas les citoyens mérite la mort. Là, il avait éduqué les citoyens, les mâles.
Ah oui, il avait éduqué à plus d'un titre. Il dit cela dans Les Grenouilles, une des plus belles pièces d'Aristophane, où, pour montrer que la cité est sur les points de perdre la guerre du Péloponnèse, il place l'intrigue. Elle débute à Athènes, mais l'intrigue se passe dans les mondes des morts. Donc ça pourrait être triste, mais donc il met en scène Échille et Euripide qui discutent. Donc Échille critique Euripide qui n'a pas appris aux Athéniens à être des bons citoyens. Et donc les poètes est un didascalos, c'est-à-dire il est un professeur, il est un instructeur et il doit par les rires, montrer ce qui pour lui est le bon chemin. puisque le rire, c'est une sorte de libération, c'est la catharsis, au sens philosophique, c'est une purge, une purge des mauvais sentiments, une purge des angoisses, et donc c'est un moment où on se dit « Ouf, je respire !» Et donc, en enseignant aux Athéniens, en montrant ce qui ne va pas, peut-être un jour prendront-ils conscience qu'ils peuvent changer. Mais un poète est un poète, il n'est pas un orateur. Et donc, l'orateur, il donne des conseils qui vont se transformer en décret, en loi. Les poètes, ils donnent des conseils qui nous font réfléchir et qui peuvent changer nos vies.
Toujours par le rire, toute la gamme des rires différents, dont parfois le rire quand même a très gros grain, puisque on voit Lysistrata, je vous laisserai traduire, Pancata Pugone, ça veut dire quoi?
Tout en fesses, tout selon les fesses, non, et puis, ou les culs.
On voit aussi des phalloïs, on dira phallus en latin, qui feraient rougir ceux qui ont installé tout récemment Place Vendôme, la fameuse statue dégonflée de Monsieur McCarthy.
Alors, Aristophane n'avait pas peur de cela parce que les phalloïs, ils faisaient partie du costume de l'acteur déjà. Mais c'était un phalloï, un membre pendouillant. Mais dans cette pièce, vous avez un membre, des membres en érection parce que tous les hommes qui apparaissent sur la scène, c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il porte une tente pour cacher son sexe. » Et donc, et après, il y a toutes les plaisanteries à propos de la douleur et donc du besoin pour les coups de la libération. Mais c'est quelque chose de courant. Ça fait partie aussi de l'univers dionysiaque. Il y avait un mythe, n'est-ce pas, ou un récit traditionnel en Grèce ancienne qui disait que les Athéniens avaient refusé d'accueillir Dionysos, et Dionysos, pour les punir, leur avait infligé une érection permanente. Simplement, quand ils ont accepté d'honorer Dionysos, qui est le dieu auquel nous sommes intéressés ici, n'est-ce pas, à partir de ces moments-là, ils ont été libérés. Donc ici, il y a seulement un jeu de regard, je dirais.
Aristophane est revenu sur cette question de prise du pouvoir par les femmes, qui n'est d'ailleurs pas forcément annonciatrice d'un féminisme contemporain, c'est assez différent. Il y est revenu sur un mode un peu autre dans l'Assemblée des femmes, plus tard. C'est une de ses dernières pièces, où le rire, me semble-t-il, a une tonalité quelque peu différente. Écoutez cet extrait d'une émission réalisée par Bronislav Horowitz, qui a été diffusée sur la RTF le 20 octobre 1954.
Qui va là? Oh, c'est la femme du cabaretier, je la reconnais. Elle tient sa lampe à la main. Oh, il en arrive. Elle court toute, c'est le gratin de la vie.
J'en ai eu du mal à m'échapper.
Il fait noir comme dans un four.
Mon mari a toussé sans arrêt.
Et moi, j'ai encore dû donner le sein au petit.
Oh, pas de détails. Asseyez-vous en cercle sur vos talons, comme à l'Assemblée. Avez-vous fait ce que nous avions dit, question peau?
Moi, oui. Pour aller la mienne, chaque fois que j'étais seule, vite, comme la nature m'a faite. Je me frottais d'huile et prenais un bain de soleil.
Moi, voilà 15 jours que je ne m'épile pas, plus de rasoir. Aussi, voyez.
Oh, un vrai buisson. Et vos postiches?
Nos barbes? Regarde, j'en ai une belle, une noire.
Et moi, une rousse qui m'arrive au nombril.
Et vous autres, là, qui ne dites rien, vous en avez aussi une?
Elles font signe que oui.
C'est le moment de les sortir. Assez bavardé. Qui demande la parole?
Moi!
À la bonne heure. Mets cette couronne et solidement campé sur ton bâton, jambes écartées comme un vrai mâle, vas-y!
Chut! Silence!
Attention, car voici qu'elle tousse comme font les orateurs, elle paraît en avoir long à dire.
Eh bien, commence!
J'aurais préféré entendre la voix raisonnable d'un de vos orateurs habituels. Cela m'aurait permis de rester assise. Aucun motif d'ambition ne m'a fait lever pour parler, j'en jure, par les deux déesses.
Les deux déesses, c'est le bouquet, mais malheureuse, tu oublies que tu es un homme. Mais tu fous tout par terre avec tes momeries de bigote.
Oh, c'est vrai, pardon.
Suffit, va t'asseoir. À moi la parole. Passe-moi la couronne. Merci. Je prie les dieux de faire réussir nos projets. Nous avons, vous et moi, citoyens, les mêmes droits, mais aussi les mêmes responsabilités. C'est pourquoi je souffre et me révolte à voir la façon dont nous sommes gouvernés par de petites têtes. Les passants que nous nous donnons pour maîtres sont tous des fripons. Le plus honnête ne l'est guère qu'un jour sur 10. Je sais bien que nous ne sommes pas faciles à mener non plus. Méfiant à l'égard de ce qui nous veut du bien, mais nous jetant dans les bras du premier voyou venu. Oh, peuple, tu es cause de tes maux. Citoyens, vous ne rêvez plus tous que d'être fonctionnaires, démargés au fond d'État. Surtout pas d'initiative ni de responsabilité, non. Des heures de bureau. Chacun de vous ne pense qu'à son petit profit. Et la République s'en va clopin, clopin, à sa ruine. Elle crève doucement, la République. Voulez-vous mon avis? Vous pouvez encore vous sauver. Ça presse, mais vous le pouvez. Comment? En remettant aux femmes les rênes du gouvernement. Les femmes n'ont-elles pas l'habitude de tenir un ménage? Recettes, dépenses, économies et tout, pas de coulage.
Oh, la bilhomme que voilà.
Ah, cette fois-ci, tu y es. Le compliment est bon.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On doit rappeler, Sylvia Milanesi, que la couronne, c'était sur la tête des orateurs. C'est un pastiche de la très, très efficace et assez ravageur de l'éloquence masculine vue par les femmes.
Tout à fait. Et c'est très intéressant dans cette version qu'elles disent, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes droits, en rappelant un des principes fondateurs de la démocratie athénienne. Et puis, après, l'existence des mêmes droits, les droits également à la parole.
Y compris avec le pouvoir des bureaucrates.
Voilà, oui, parce que la démocratie athénienne était plutôt une démocratie ouverte, n'est-ce pas? Dans le sens où tout citoyen avait les droits à prendre la parole. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a la parodie, n'est-ce pas, du discours du héros à l'ouverture de l'Assemblée qui dit « qui veut prendre la parole ?» Et donc là, la première, puis Praxagoras, c'est-à-dire celle qui pratique l'agora, qui connaît bien les discours. Et donc cette femme met en avant les principes de la démocratie et puis la proposition des femmes est une proposition remarquable. Parce que dans l'histoire d'Athènes, on avait l'intention de mettre les choses en commun, mettre ensemble les biens de tous pour que tous puissent profiter. Ça, c'est une révolution que certains ont considérée comme inspiratrice des œuvres comme Utopie, comme de Platon, par exemple.
À propos des bars, vous savez peut-être, Sylvia Milanesi, qu'il existe un groupe qui s'intitule aujourd'hui les femmes à barbe et qui surgissent dans les assemblées ou dans les réunions où il n'y a que des hommes à la tribune en particulier. Est-ce qu'elles ont lu, vous pensez, Aristophane?
Probablement. Celle-ci, elle ne se contente pas uniquement d'ébattre la barbe, mais aussi de s'étanner la peau, n'est-ce pas? Non pas pour faire les intéressantes, les coquettes, mais pour ressembler à un homme, puisque les femmes avaient les teints blancs d'ordinaire. Il faut quand même réfléchir aux deux pièces auxquelles on a fait allusion. Dans la Lysistrata, les femmes prennent la décision de faire la paix, de se réunir pour faire la paix, puisque Lysistrata affirme qu'aucun homme ne peut le faire et les hommes eux-mêmes dans les rues d'Athènes affirment qu'il n'y a plus un seul homme dans la cité. Donc les femmes occupent la place de l'homme, elles qui n'ont pas le droit de faire de la politique.
Pourquoi nous dites-vous que ce n'est pas féministe?
Là, c'est pour mettre les hommes devant leur faiblesse. Il y a l'opportunité aussi dans ces comédies de faire vraiment rire avec ce qui est propre aux femmes, ou du moins ce qu'Aristophane considérait comme les propres aux femmes, comme les petites persiques, les petites frivolités, n'est-ce pas, les maquillages, l'épilation, etc. C'est-à-dire, donc, c'est une femme objet. sait, en quelque sorte, ce qu'elle sait, toute la préparation pour amener l'homme dans leur lit. Dans la comédie, l'Assemblée des femmes, les femmes sont là. Pourquoi ? Parce que les hommes, ils n'arrêtent pas d'innover. Et donc, les femmes, d'après les textes d'Aristophane, sont la constante, elles sont la tradition. Elles font cuire les pains comme avant, elles s'occupent de leurs enfants comme avant. Et donc, la femme, pour moi, évidemment, on aimerait dire oui, c'est un discours pour les femmes. Mais c'est aussi, il faut penser que toutes ces comédies, elles ont à l'arrière-plan probablement beaucoup des textes d'Euripide où la femme est philosophe, où la femme prend des décisions, n'est-ce pas ? Et précisément, ces tragédies que les femmes d'Aristophane critiquent puisqu'elles veulent faire exactement ce qu'elles font, à savoir tromper leur mari en cachette, et c'est la coulée douce. Voilà, donc j'ai un peu du mal, même s'il y a ces discours magnifiques des femmes pour le bonheur commun, les féminismes me paraît un peu anachronique, oui, effectivement.
Alors, je voudrais que nous terminions notre conversation, Sylvia Milanesi, consacrée au rire chez Aristophane, en essayant de faire une sorte de typologie pour recouper un bon nombre des propos que vous avez eus devant moi. Il y a différents types de rire. Il y a le rire de moquerie qu'on a beaucoup vu. Il y a le rire qu'on peut dire provoqué, puis il y a le rire du plaisir commun.
C'est-à-dire que la comédie, c'est les mondes à l'envers, c'est les mondes du plaisir, et les rires, c'est les plaisirs partagés, un rire construit par les poètes qui guident les publics dans ces vastes chemins. Par exemple, les poètes s'attaquent souvent nommément aux Athéniens. Donc ça, c'est très important, et c'est l'insulte. Mais cette insulte, ce n'est pas seulement gratuit. Là, c'est une communauté, on provoque, on crée une communauté par les insultes répétées. Mais il est vrai aussi ce que vous dites, il y a les plaisirs de la nourriture, les rires de cette nourriture qui n'existe pas. Et donc on met en scène une profusion de nourriture dans ces banquets extraordinaires.
Le rire du banquet.
Alors que les gens n'ont pas beaucoup de choses à manger chez eux, puisque c'est la guerre. Et donc, tous les discours, par exemple, de l'utopie de la bouffe, que l'on descende dans les mondes morts ou ailleurs, tout cela met en évidence le fait qu'on crève la faim. Donc, on rit, et ça, ça remplit, je ne sais pas si ça remplit l'estomac, mais ça remplit l'esprit. Les retours de la guerre, la rencontre avec la femme, l'amour des parents ou l'imitation de l'amour, que ce soit dans la Lysistrata ou ailleurs. Nous avons les plaisirs, les sexes comme plaisir et donc les rires du sexe également. Donc tout se confond. À vrai dire, Aristophane, il ne s'attaque jamais à un seul point. Par exemple, si on rit du banquet, parfois, derrière les banquets, il y a les politiques qui est présentée, la vie politique est présentée comme un banquet. Les démagogues, il est présenté comme l'amoureux du peuple. Donc, c'est lui qui lui prépare, par exemple, des petits plats et qui essaye de les combler. Donc, c'est un rire mélangé et un rire puissant. J'ai rarement vu quelqu'un être capable de provoquer, d'être aussi riche, d'être si intelligent dans la conception du rire et de son utilisation.
Mais décidément, je crois que vous n'approuvez pas Georges Clemenceau qui disait que Aristophane était le seul grec qu'il n'aimait pas parce qu'il salissait tout. Visiblement, vous êtes en violente opposition, non ?
Moi, je ne pense pas qu'il salissait tout. Nous sommes dans les contextes de la fiction. Dans la fiction, tout est permis parce qu'elle ne dépend que de l'intelligence du créateur.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Sylvia Milanesi, vous avez donné plusieurs présentations, introductions précieuses à diverses pièces de théâtre d'Aristophane, Lysistrata, aux Belles Lettres en 1996. La traduction était d'Hilaire Vandel, pour une introduction aussi au Plutus, aux Belles Lettres en 2008, aux Nuées, la pièce où il s'en prend à Socrate. La bibliographie que vous trouverez sur notre site, vous le savez, est naturellement plus complète avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, je vous y engage ardemment, écouter, réécouter et télécharger cette émission en la gardant dans vos collections sonores. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour cause de messe. Messe du 1er novembre. Samedi 8 novembre, nous parlerons de la prise d'otage. La prise d'otage en montrant que c'est une arme ancienne. Avec Gilles Ferragu, qui est spécialiste du terrorisme. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Clément Daté et Isabelle Forrendu pour les archives INA. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.